Écrire, transformer, pardonner, c'est la règle de 3 de Evansler. Écrire l'a aidé, dit-elle, à survivre, à panser les plaies d'un viol dont elle a été victime enfant. Surtout quand étudiante au Middlebury College, une université privée du Vermont, cette adolescente autodestructrice découvre des mots salvateurs, ceux des poètes, des écrivains, ceux qui lui permettent d'imaginer une autre réalité. Écrire, 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 répète-t-elle parfois comme un mantra. Écrire sur les femmes, leur corps que nos sociétés voudraient parfait. Écrire le vagin comme on ne l'a jamais fait avant elle. Mettre des mots dessus, dedans, sous la forme d'une pièce de théâtre, traduite dans 50 langues, jouée par elle d'abord, puis par des comédiennes et des femmes politiques dans 140 pays.
On dit le petit coin, le poudrier. Au sud, la foufoune. Le mistigris.
Ici, le zizi, le piou-piou.
Là, le kiki, la poupounette. Nous avons trouvé la crapounette.
Transformer la rage en résilience, la colère en résistance. Transformer le succès des monologues du vagin en action humanitaire, avec des millions de dollars de recettes reversées à Vidé, sa fondation, pour financer notamment sa cité de la joie en République démocratique du Congo. Dans ce refuge, cofondé avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, les victimes des viols de guerre réapprennent à vivre et à se reconstruire. Pardonner, c'est le sens de son dernier livre. Pardon, c'est la lettre d'excuse qu'elle a écrite à la place de son père, lui qui l'a violée alors qu'elle avait entre 5 et 10 ans, lui qui est mort aujourd'hui sans avoir jamais exprimé le moindre regret. Le pardon, c'est ce qu'Evansler espère aujourd'hui des hommes, Donald Trump en tête, qu'elle qualifie de prédateur en chef. Elle fait le parallèle entre son approche des ressources naturelles et sa vision des femmes, des objets qui peuvent être dominés, exploités et pillés en fonction de ses besoins.
Evansler, donc, qui publie Pardon chez De Noël. Tu avais 5 ans, j'en avais 52. Tu n'avais aucune souveraineté. Je t'ai exploité, j'ai abusé de toi, j'ai pris ton corps, je t'ai chassé de ton corps, j'ai fait en sorte que le viol soit ce qui t'excite. Écrivez-vous, Evansler, à un moment donné, dans Pardon, pour écrire la lettre que votre père ne vous a jamais adressée. Il a fallu vous mettre à sa place, faire œuvre d'empathie d'une certaine manière. Est-ce que ça a été douloureux ou libérateur ?
It was very painful.
Ça a été très douloureux. Pendant de très nombreuses années, je n'étais tout simplement pas prête à ressentir la douleur de mon père ou même à essayer de comprendre la raison pour laquelle il aurait pu faire tout ce qu'il a fait. Et je souhaite ici établir le distinguo entre la justification et l'explication. Il n'y a jamais aucune justification pour violer ou pour faire du mal à un enfant mineur. Mais j'ai essayé d'entrer dans son esprit pour comprendre sa propre histoire, pour que lui la déroule en quelque sorte, pour comprendre quels ont été les ingrédients, ce qui s'est passé dans sa vie, dans la culture, du patriarcat, alors que dans son éducation peut-être, parce qu'au départ c'était ce garçon gentil, ouvert, qui s'est transformé en monstre. Que s'est-il passé? Et je pense que cette exploration a été par moments extrêmement douloureuse, parce que moi-même j'ai dû ouvrir mon cœur à la douleur, à la souffrance, à l'oppression, à ce que lui a subi. Mais de manière paradoxale, ça a été une libération pour moi, parce que mon père est devenu très humain et il a perdu le pouvoir qu'il exerçait sur moi. Il est devenu quelqu'un qui était lui-même terrorisé par le patriarcat, oppressé par le patriarcat. Et lorsqu'il était jeune, c'est quelqu'un qui a été adoré. Il est né 15 ans après le petit dernier de la famille, donc c'était l'accident qui est devenu le petit miracle. Et puis c'est vrai qu'il y a une espèce d'adoration pour les petits garçons. Mais ça ne suffit pas. L'adoration, c'est aussi cette projection du besoin d'être parfait, l'auto-idéalisation, et jamais on ne peut vivre à cette hauteur. Donc vous êtes forcé de subir la vulnérabilité, la faiblesse, les doutes, les larmes, et tout ça, il l'a intériorisé, et finalement c'est ressorti beaucoup plus tard sous forme de rage, d'agression et de violence. Et donc je pense que véritablement c'est quelque chose de très important à découvrir.
Anne.
Oui, vous écrivez dans l'introduction du livre que vous avez dû lui aménager, excusez-moi, un espace pour se manifester à travers vous. Comment concrètement on aménage un espace en soi pour son bureau? Pour son bureau, est-ce que c'est purement dans la tête? Est-ce que c'est un exercice? Comment on fait concrètement?
It's a very good question. You
know, excellente question.
I think for any woman
vous savez, pour toute femme dont le corps a été envahi, l'auteur vit à l'intérieur de vous-même. Il rentre en vous-même, il rentre dans votre sang, dans votre ADN. Donc mon père a toujours vécu à l'intérieur de moi. J'ai senti tout ce que lui n'a pas ressenti. C'était comme un poison qui était en moi. Donc ça a été comme un exorcisme, comme expulser tout cela, mais aussi me permettre de rentrer dans ce qui d'ores et déjà était à l'intérieur de moi et de lui donner une voix. Et ce faisant, c'est devenu quelque chose qui n'était absolument plus mythique et surtout qui a perdu son pouvoir, le pouvoir qu'il exerçait sur moi. Et vous savez, de nombreuses femmes m'ont écrit, elles m'ont dit qu'elles ont fait cet exercice d'écrire des lettres à elles-mêmes au nom de l'auteur des agressions lorsqu'elles n'ont pas pu obtenir d'excuses. Et on a eu de très bons résultats avec à la Cité de la Joie en République démocratique du Congo avec ma cofondatrice. C'est une femme qui est absolument extraordinaire et qui est à la tête de la Cité de la Joie, et bien elle fait cet exercice avec les survivantes à la Cité de la Joie et elle m'a dit qu'un matin elle est arrivée dans son bureau et il y avait une pile de lettres que les femmes avaient écrites tout au long de la nuit au nom donc de leur auteur à elles-mêmes avec des résultats extraordinaires.
Nadia, on évoque avec Evansler l'ouverture avant-hier à New York du procès d'un prédateur sexuel, Harvey Weinstein.
Oui, c'est un procès donc, qui s'est ouvert lundi et qui est évidemment très suivi. Il est poursuivi pour viol et pour agression sexuelle. Le tribunal n'en est encore qu'au stade de la sélection des jurés, mais ce qu'on sait, c'est que Harvey Weinstein ne va devoir répondre qu'à des accusations portées uniquement par deux femmes, puisqu'il a conclu un certain nombre d'accords avec plusieurs autres accusatrices. Au total, il a versé près de 25 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées par une trentaine de femmes, de victimes présumées, pas de sa poche directement, puisque tout est pris en charge par les compagnies d'assurance. On sait également que l'indemnisation des victimes avant un procès, pour éviter un procès, c'est une pratique qui est assez courante aux États-Unis, qui nous est un petit peu plus étrangère à nous en France, et qui est discutée du coup en ce moment aux États-Unis. Donc l'argent pour acheter le silence, mais est-ce que l'argent peut acheter le pardon de ces femmes, de ces victimes?
Non.
Absolument pas, non.
And I think I was reading the transcript
j'ai
of what the
lu
Harvey,
les scripts de ce que les avocats d'Harvey Weinstein mettent en place. Et c'est déplorable, c'est absolument déplorable. Il est présenté comme la victime, c'est comme si toutes ces femmes sont venues dans leur chambre, elles portaient des petites tenues de nuit, elles savaient qui il était, c'est un grand producteur, etc. Je crois que lui, c'est l'exemple parfait de tout ce que j'évoque dans ce livre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est jamais, qui n'a jamais fait face à lui-même, qui ne s'est jamais posé de questions. Il y a eu des mois et des mois pour trouver un thérapeute, un psychologue, pour essayer de se comprendre, enquêter tout ce qu'il a fait, comprendre les violations, les agressions absolument déplorables qu'il a commises. Plutôt, ce qu'il a fait, c'est de construire une affaire contre ses victimes. Et je pense que si l'on souhaite comprendre pourquoi nous sommes bloqués, Harvey Weinstein en est l'illustration. Il n'est pas prêt à faire de l'introspection, il n'est pas prêt non plus de comprendre ce qu'il a véritablement fait. Pour lui, il est complètement à côté de la réalité. Mais parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il est blanc, parce qu'il a un statut, eh bien, pendant un certain temps, le monde va lui emboîter le pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, le mouvement aux États-Unis est tellement fort que Harvey Weinstein ne va pas s'en sortir. D'une manière ou d'une autre, il y aura des solutions et je pense que ce procès va faire ressortir des choses, va faire avancer les choses également. Pour moi, ce qui est absolument triste, c'est de constater tous ces hommes qu'on a dénoncé au cours des dernières années. Mais il y a eu combien d'années de patriarcat? Et pour autant, je n'ai jamais entendu un seul homme émettre des excuses publiques pour des agressions sexuelles ou pour un viol. Pas un seul homme. Et je crois que nous devons nous demander pourquoi. Je pense que le manque d'excuses, c'est la colonne qui soutient le patriarcat. Et lorsque certains hommes commenceront à faire montre de courage, se révéleront, essaieront de comprendre ce qu'ils ont fait en détail, quelles ont été les répercussions sur les victimes. Et puis, comment est-ce que ces hommes peuvent apporter réparation? Je pense que c'est ainsi que nous mettrons fin à ce conflit entre les hommes et les femmes. Mais jusque-là, eh bien, vous savez, ça fait des années et des années que je fais ce travail. Si les hommes ne changent pas aujourd'hui, si les hommes ne sont pas prêts à traverser un processus, à se poser des questions quant à leur comportement, comprendre que c'est entériné dans la masculinité toxique, dans la culture du patriarcat, eh bien, nous continuerons d'en entendre parler.
Evansler, nous sommes emporté par l'ouragan de votre énergie, de votre humour, de votre optimisme. Et j'ajoute que vous êtes non seulement une féministe de légende, mais vous êtes une environnementaliste. Et d'ailleurs, vous considérez que la lutte pour l'environnement, l'écologie, va de pair avec le féminisme. Les monologues du vagin, qui viennent d'être réédités avec une formidable préface de Suzanne Sontag, Pardon, chez De Noël. Et j'ajoute encore une fois, Evansler, que demain, vous organisez avec Cynthia Fleury, la philosophe, à Paris, un colloque autour des féministes. Toutes les coordonnées, ça se passe je crois au CNAM, Centre National des Arts et Métiers à Paris, et coordonnées sont sur le site de l'émission. Merci infiniment d'être venu nous irriguer avec votre goût de vivre, Evansler.